Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais donc laisser à la fois la parole et le micro à Philippe Chevalier, donc qui travaille à la Bibliothèque nationale de France et qui est l'auteur d'une très belle thèse dont, que Michel Sennelard a évoquée ce matin sur Foucault et le christianisme, qui va d'ailleurs paraître prochainement. Enfin bon, c'est un travail tout à fait remarquable et je pense qu'il va, si ce n'est nous parler directement de la thèse, au moins d'éléments de travail qu'il a pu approcher.
Merci beaucoup. Voilà, je vais essayer de vous parler de la manière dont mon travail de thèse a pu croiser les travaux de l'équipe de l'ANR, de Philippe et de Jean-Claude, et ce que j'ai pu en retirer et les effets, j'espère, de sens qui sont apparus. Alors, le sujet de la thèse au départ était vraiment une interprétation générale, même si c'est un peu prétentieux de le présenter comme ça, l'intitulé étant « Foucault et le christianisme ». Même si la thèse s'est quand même beaucoup concentrée sur le cours de 1980, qui est encore inédit, c'est Michel Sennelard qui est d'ailleurs chargé de son édition, le cours du gouvernement des vivants. Mais c'est justement en travaillant sur cette question d'interprétation générale que j'ai trouvé que les perspectives ouvertes par l'équipe et le travail de l'ANR étaient tout à fait intéressantes, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, le christianisme, je commencerai par quelques propos un peu généraux sur Foucault et le christianisme. C'est un objet qui est à la fois extrêmement présent dans les travaux de Michel Foucault, et peut-être même est-ce l'objet le plus présent, l'objet qu'il a le plus constamment interrogé. Et pourtant, il reste peu étudié de front par les commentateurs. Peu étudié de front, peut-être parce que l'affaire semble entendue. Le christianisme, pour Foucault, depuis la préface à Folie et Déraison en 1961, où Foucault oppose un certain Orient dionysiaque à notre Occident chrétien, jusqu'à la volonté de savoir en 1976, eh bien, le jugement de Foucault sur ce christianisme a l'air d'être catégorique et relativement simple. Le christianisme a épinglé une âme sur un corps, une subjectivité sur une chair. Il a institué un grand partage qui a rendu possible et commandé par la suite tout un ensemble de barrières, de contrôles, de vérifications perpétuelles. Pas de salut possible pour le chrétien, sans jugement discriminant, sans aveu constant de sa vérité intime, vérité de son désir, vérité de sa sexualité, vérité enfouie au fond de lui-même. Alors, l'opposition semble donc claire. Et peut-être du même coup, le thème Foucault et le christianisme condamné à la répétition. Foucault ne dit-il pas finalement toujours un peu la même chose quand il entreprend une histoire de l'aveu dans Les Anormaux, le cours de 1974-1975, puis une histoire du dispositif de sexualité en 1976 dans La volonté de savoir. Alors, il faut se rappeler que cette impression de répétition, Foucault l'a eue sans doute lui-même. Il faut se rappeler effectivement le syndrome qui avait frappé Foucault en pleine écriture des premiers livres consacrés au christianisme, dans le premier projet d'histoire de la sexualité, en particulier la première version des Aveux de la chair, rédigée en janvier 1978. Ces livres, avoua plus tard Foucault dans une interview de 1984, « J'ai failli mourir d'ennui en les écrivant ». Pourquoi ce sentiment d'ennui qui le fait soudain lâcher prise ? Peut-être parce que Foucault avait l'impression de déjà savoir ce qu'il allait écrire avant même de l'écrire. Et je crois que cet ennui a joué un rôle important dans ce qu'on a appelé le grand virage, fin des années 70, début des années 80, vers le dernier Foucault, entre guillemets, celui de la Grèce et du sujet, vers 1981-1982, pour les premiers cours sur la Grèce antique. Mais avant ce virage thématique, avec l'apparition d'un thème nouveau, même si là je simplifie beaucoup, je crois qu'il y a eu un virage méthodologique non moins important en 1980 qui se joue vraiment dans le cours du gouvernement des vivants et vraiment dans ses manières de travailler, et d'abord, puisque c'est ça uniquement, je vais travailler dans sa manière d'enseigner, l'un nous informant tout de même sur l'autre. Pour Foucault, dans « Du gouvernement des vivants », je pense qu'il s'agit d'échapper à l'ennui en relisant les textes chrétiens, plus précisément les premiers textes, là où tout a commencé, ceux des pères chrétiens des premiers siècles, entre le deuxième et le quatrième. Textes pourtant qu'il avait déjà lus, c'est pour ça que je dis « relis », puisqu'on a des traces importantes de lecture des pères en 1977 pour préparer à la fois le cours au Collège de France de 78, Sécurité, Territoire, Population, et la première version des Aveux de la chair. Mais il s'agit en 80 de relire les pères autrement, comme nous allons le voir. Alors, étrangement, je n'avais jamais remarqué cette différence de style entre les cours au Collège de France avant 1980 et les cours après 80. Et là, je voudrais vraiment dire ma dette vis-à-vis du programme de recherche de l'ANR, que je remercie vraiment ici, qui m'ont permis de voir cette césure. Je crois que sans les travaux de cette équipe, je n'aurais sans doute jamais prêté attention à des petites choses aussi simples, aussi ténues, que la manière dont Foucault lit un texte, la manière dont il le traduit, dont il le découpe, dont il le cite dans un enseignement, à partir de quelle édition. Alors je voudrais présenter quelques-uns de ces petits faits ténus que l'on peut extraire de ces manières de faire de Foucault dans son cours de 1980. Premier indice de ce virage de 1980, la manière de citer les textes. À 2 ans d'écart, le corpus patristique, donc les pères chrétiens chez Foucault, permet en effet une intéressante comparaison. Si la vaste entreprise de commentaires des pères au Collège de France commence bien dans la leçon du 6 février 1980, une leçon du cours de 1978 avait déjà été intégralement consacrée au gouvernement des âmes dans les premiers siècles chrétiens. Or, de 78 à 80, le rapport au texte ancien s'est radicalement modifié, alors même que la période et les auteurs de référence sont quasiment les mêmes. Des textes qui vont du 3e au 6e siècle, saint Cyprien, saint Ambroise, Cassien, etc. Une simple étude quantitative, et j'ai compté à la main, nous indique déjà le changement de méthode. Décomptons par exemple pour une même durée d'enseignement les textes matériellement présents dans les analyses de Foucault. En une heure de cours, le 22 février 1978, sont proposées 16 citations directes des pères, souvent très brèves, extraites de 7 auteurs et de 8 ouvrages différents. Le 13 février 1980, Foucault utilise un nombre très légèrement supérieur de citations, 20 au total, ça c'est pas très signifiant, mais elles sont extraites seulement de 2 ouvrages d'un unique auteur, le De Baptismo et le De Penitentia de Tertullien. Non seulement Foucault réduit considérablement la matière livresque utilisée, mais ses citations sont extrêmement resserrées. Sur les 17 versets lus en cours, 11 sont extraits uniquement de 2 chapitres consécutifs du De Penitentia. Dans la progression de l'argumentation ensuite, les citations jouent un rôle différent. En 78, la leçon est organisée autour des 3 domaines concernés par le pouvoir pastoral, le salut, la loi, la vérité. Le premier domaine est à son tour subdivisé en 4 principes qui régissent l'exercice du pouvoir en vue du salut, responsabilité analytique, transfert exhaustif et instantané, inversion du sacrifice, correspondance alternée. Vous voyez donc qu'on a une architecture théorique extrêmement charpentée. Mais il faut préciser que ce découpage complexe ne se trouve tel quel chez aucun des pères, bien entendu. Il relève uniquement de l'analyse propre à Foucault, qui en avoue volontiers en cours le caractère, je cite, « schématique et caricatural ». On n'est pas très loin de ce que Weber appelait un « tableau de pensée » dans Essai sur la théorie de la science, qui doit aider la recherche à s'organiser, mais n'a de valeur qu'heuristique. Dans Sécurité, Territoire, Population, la construction d'ensemble théorique et synchronique prime donc et efface ouvertement la diversité historique des textes rassemblés, les auteurs et leurs contextes, qui ne font pas l'objet de commentaires distincts. Quel rôle joue alors le texte cité, c'est-à-dire vraiment le texte dans sa matérialité? Un rôle limité en 78. Une fois énoncé et expliqué dans son mécanisme interne, chaque principe de la pastorale du salut que j'ai détaillé, est seulement illustré par 1 ou 2 citations patristiques. Ces citations sont très brèves et introduites par Foucault de la manière la plus simple qui soit. Et saint Cyprien dit, Jérôme le dit, comme le disait saint Grégoire, etc. La parole citée joue donc le rôle d'attestation conclusive de ce qui a été préalablement défini. La parole du Père n'est ensuite ni reprise ni expliquée, comme si son sens était évident et son adéquation aux propos immédiates. Pour ce faire, l'énoncé citant est volontairement le plus neutre possible, se réduisant presque exclusivement au verbe « dire », qui devient alors, par l'appui de la conjonction « comme » ou de l'adverbe « ainsi », par exemple, « comme le disait saint Grégoire » et « c'est ainsi que saint Benoît dit », eh bien, « redire ». En aucun cas, il ne s'agit de commenter le texte cité, de reprendre l'une de ses expressions ou de définir l'un de ses mots. Citer, c'est simplement attester ce qui a été théorisé au départ relativement au pouvoir pastoral. En 1980, il s'agit de tout autre chose. Le cours se présente au contraire comme une lecture cursive et presque chronologique d'un ensemble très important de textes qui s'étend de la fin du 1er siècle, la Didaké, au début du 5e, les conférences de Cassien. Un ensemble dont les contours académiques et confessionnels ne sont pas bousculés. Là où sécurité, territoire, population pratiquait au contraire encore un certain nomadisme volontaire dans le choix des textes. On se rappelle, le cours remonte du 19e au 3e siècle, puis descend au 13e siècle. Il traverse aussi bien l'épidémie de la variole que le prince de Machiavel et les textes mystiques. Le cours de 80 progresse différemment. S'il repasse par des auteurs déjà mentionnés dans l'une des leçons, comme je l'ai déjà indiqué, de 1978, comme saint Cyprien ou Cassien, c'est désormais à l'intérieur d'un corpus historiquement et thématiquement homogène, les textes patristiques. En tout, ce sont près de 20 traités de patristique qui sont utilisés sur uniquement 5 heures d'enseignement consacrées au Père. S'en tenant strictement à ce corpus académiquement prédéfini, le cours ne s'aventure pas hors des sentiers battus. Pas de textes marginaux ou oubliés. Les textes choisis sont les plus connus des études patristiques et les plus canoniques de cette littérature. Là où sécurité, territoire, population allait chercher des curiosités comme le miroir politique, ce texte de Guillaume de la Perrière, ce Toulousain dont on ne savait pas grand-chose à l'époque où Foucault prononça son cours. Remarquons enfin, l'absence de textes appartenant à des domaines extra-religieux. Pas de texte juridique, pas de texte politique, pas de texte scientifique. Plus de va-et-vient d'un corpus à un autre. Mais la différence la plus notable n'est pas dans cet apparent retour à une frugalité érudite ou à une sobriété tout académique. La présence des sources textuelles dans le cours n'est plus seulement documentaire. C'est le cours en lui-même qui devient un acte de lecture. Foucault intègre pour la première fois dans ses leçons le commentaire de texte, ce qui deviendra dès lors sa méthode quand il commentera ensuite les textes grecs jusqu'en 1984. Citant longuement un passage des Pères, discutant un point de traduction, repérant l'occurrence des termes et leurs usages, pratiquant l'étymologie, exomologein, confessio, Foucault se livre ni plus ni moins à une exégèse des textes patristiques. C'est l'acte de lecture qui guide désormais le déploiement de la pensée, et non l'inverse, au moins dans la manière dont le cours est prononcé. Le texte est rien que le texte, Foucault devient presque un luthérien, sola scriptura. Des mêmes auteurs, les leçons des 15 et 22 février 78 n'extrayaient au contraire que des citations très brèves, comme je l'ai montré, uniquement illustratives, jamais discutées dans leur littéralité. Au contraire, il s'agit maintenant de lire le christianisme dans la lettre. Alors, et je terminerai par là, de quelle lettre s'agit-il exactement ? Je ne parlerai pas des sources secondaires, à moins qu'il y ait des questions suite à l'exposé. Je me concentrerai sur les sources primaires. S'agit-il de la lettre grecque, de la lettre française, traduite par Foucault ou par les révérends pères jésuites ou dominicains ? Bref, quelles éditions des pères a donc lu Foucault ? Puisqu'il s'agit vraiment ici de son travail de première main. Et comment les a-t-il maniés ? A priori, on n'en sait rien, à l'exception de l'unique mention d'une édition française du pasteur d'Hermas, Foucault, comme à son habitude, ne dit mot de l'édition qu'il utilise, ce qui est toujours embarrassant quand on édite les cours. Un indice pourtant facilite le repérage, c'est le style des traductions, bien entendu. Celles qui étaient proposées par les grands recueils patristiques français ne sont pas des traductions littérales, comme on les pratique aujourd'hui. Elles privilégient toujours l'idée visée, c'est-à-dire vraiment le sens de la phrase que le traducteur va interpréter. C'est une herméneutique presque des textes. Donc privilégie l'idée visée sur le respect de la syntaxe et de la lexie originale. À ce titre, elles sont facilement repérables, même plus facilement que je ne le croyais, dans les propos de Foucault. Car à l'opposé, quand Foucault traduit lui-même à de rares occasions le texte, il est au contraire au plus près syntaxiquement et lexicalement du texte source. Et il ne corrige les traductions à sa disposition que pour se rapprocher le plus possible du lexique des pères. Il cherche vraiment à faire entendre le texte grec ou latin dans sa traduction française, et souvent justement en ne traduisant pas du tout et en gardant des syntagmes grecs et latins, comme par exemple « la publicatio sui ». Au lieu de parler de l'acte de se montrer, il insiste « la publicatio sui ». On aurait pu traduire, c'est un terme assez simple, assez neutre, mais Foucault choisit de le faire entendre, « la publicatio sui », parce qu'on voit bien justement combien « publicatio » est immédiatement plus parlant, plus fort que le simple fait de se montrer, surtout si on y ajoute le « sui », le « soi », l'acte de se publier soi-même. La comparaison des citations du cours avec les traductions disponibles à l'époque offre ainsi un résultat clair. S'il se permet ça et là de les corriger, Foucault privilégie autant que possible les traductions françaises déjà existantes, sans redouter parfois certaines éditions dont le grand âge est parfois inversement proportionnel à la rigueur, en particulier quelques vieilles dames ou vieux messieurs du XIXe siècle. Majoritairement cependant, il lit, principalement deux éditions, les textes et documents pour l'étude historique du christianisme, qui est une collection qui a été inaugurée en 1904 par les abbés Hippolyte Aimer et Paul Leget, qui est la première édition française critique, bilingue, à prétention universitaire, des pères chrétiens. Et bien entendu également, autre collection utilisée par Foucault, les sources chrétiennes des éditions du CERF, fondées en 1948 par les pères jésuites, devenue aujourd'hui une unité de recherche du CNRS, qui en est à son 539e volume, au moins ce matin quand j'ai regardé. Occasionnellement, Foucault s'autorise cependant quelques chemins de traverse, avec presque un malin plaisir à aller de ce côté-là. Il manie également, effectivement, une édition aussi volumineuse que poussiéreuse, aujourd'hui tombée en désuétude, la traduction en trois volumes des œuvres complètes de Tertullien par l'abbé de Genoude, décédé en 1849. Celle-ci offrait, dans un français souvent luxuriant, c'est un peu le Chateaubriand de la patristique, des textes difficiles d'accès, mais sa réputation de rigueur s'est fort ternie avec le temps. Quand Genoude arrive dans le cours de Foucault, on le voit venir de loin, parce que c'est vraiment un lyrisme extrême, très, très, très accentué. On trouve trace également de la traduction des œuvres complètes de Jean Chrysostome, sous la direction de Jean-Baptiste Janin, avec la collaboration de prêtres de l'Immaculée Conception de Saint-Dizier, publié à Bar-le-Duc en 1864. Le cours emprunte donc des voies très classiques à une exception près. Alors cette modeste entorse à la règle académique m'a intéressé ici en ce qu'elle révèle, sous une même heure d'enseignement, la juxtaposition de plusieurs séries de prises de notes. Le 27 février 80, les citations de l'épître de Barnabé et de la première épître aux Corinthiens de Clément de Rome contiennent des traces évidentes des traductions d'Aimer Leget, cette première édition française vraiment critique des pères. Mais apparaissent en plusieurs endroits des écarts notables avec ces deux éditions qui laissent deviner la présence d'une autre édition des mêmes textes. Ce pressentiment est confirmé un peu plus loin. Le même jour, la Didaquée est lue dans une traduction que je n'ai retrouvée dans aucune grande collection de patristiques. Ce n'était ni les sources chrétiennes, ni Aimer Leget. Pour ces trois textes patristiques, Barnabé, l'Épître aux Corinthiens et la Didaquée, Foucault recourt en fait, en parallèle, à une autre traduction que j'ai localisée dans un lieu inattendu, la compilation grand public de textes des premiers siècles, préfacée par Louis Bouillet en 1963 pour les éditions du CERF. Les écrits des pères apostoliques. Il s'agit d'une édition de poche qui offre des traductions de grande qualité, mais sans texte original ni apparat critique. Il est alors plus que plausible que Foucault ait préparé la plus grande partie de sa leçon en bibliothèque sur les éditions Aimer Le Jay, puisque par ailleurs, ces citations apparaissent dans cette leçon, tout en la complétant chez lui par des notes prises sur ce volume plus malléable, modeste, mais compact. Il en va de même pour le De Baptismo de Tertullien, cité le 13 février, dans deux éditions différentes, celle de Genoud, que l'on repère de loin, et celle plus sérieuse des Sources chrétiennes. C'est même encore un tout petit peu plus compliqué pour les citations de la Didaké. Car Foucault, dans l'enregistrement du cours, cite des termes grecs qui ne sont pas dans le manuscrit qu'il a sous les yeux, son manuscrit à lui, le texte préparatoire du cours. Ce qui nous indique une autre pratique nouvelle de Foucault. Puisqu'il s'agit désormais de lire les textes en cours, Foucault vient en cours avec le livre qu'il va commenter. C'est Oedipe d'ailleurs dans Oedipe, pour Oedipe Roi qui ouvre le cours de 1980. Foucault dit même au début de l'une des premières leçons « Je viens à l'instant d'oublier mon exemplaire d'Oedipe chez moi, il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire. » Fin de citation. Eh bien, il en va en fait exactement de même pour la Didaké. Foucault n'a certainement pas sous les yeux le vieil Aimer Le Jay, qui est une belle édition critique disponible seulement en bibliothèque, et qu'il l'eût dispensé s'il avait eu à sa disposition chez lui de préparer son cours sur l'édition grand public de Bouillet. Mais ce n'est pas non plus Bouillet qu'il a sous les yeux, puisque Bouillet ne nous fournit pas le texte grec. Alors qui ? Eh bien, très probablement, simple hypothèse, Foucault s'est acheté l'édition Sources chrétiennes qui venait tout juste de paraître en 1978. Nous avons donc sous un même cours, ou dans un même cours, trois éditions différentes utilisées. Et le travail sur les sources permet de reconstituer la scène d'enseignement dans sa dimension quasi-physique. Foucault lit à haute voix ses notes, qui mêlent les merlegés et Bouillet, tout en gardant un œil sur le volume des Sources chrétiennes qu'il a ouvert à côté de lui, pour y vérifier le texte grec, qui va lui permettre de corriger certains points de la traduction des merlegés. Alors, quelle conclusion en tirer ? Eh bien, déjà, contre l'image d'un Foucault menant une recherche bibliographique simple, à la fois très programmée et organisée du corpus patristique, l'étude des citations chrétiennes permet ainsi de dénombrer pour certains ouvrages au moins deux temps successifs de lecture, avec pour chaque temps des jeux d'édition et des prises de notes distinctes que Foucault n'a pas cru bon d'homogénéiser. Dans une même leçon, on croise une édition de 1919, une édition de 63, et même une édition du 19e, une édition du 20e. Alors, ce qui paraît d'abord comme un point de détail permet deux constats importants. Tout d'abord, ce repérage permet d'établir l'absence de choix précis concernant les versions disponibles. Si Foucault se reporte aux éditions traditionnelles, il semble aller indifféremment de l'une à l'autre, considérant comme non pertinent pour son propos les écarts entre les manuscrits de référence. Foucault n'utilise pas forcément l'édition critique la plus récente à sa disposition, ni ne fait de l'intégrité maximale du texte la condition de son commentaire. Ce désintérêt apparent souligne l'enjeu véritable de la recherche. Dans son commentaire des Pères, Foucault s'attarde non pas tant sur des propositions ou de longues argumentations que sur des mots et des syntagmes que son commentaire va découper et va mettre en exergue comme des entrées de dictionnaire. Vérité de la pénitence, épreuve, publication de soi, etc. C'est d'ailleurs uniquement dans le but de bien faire entendre à l'auditeur ce champ sémantique du soi et de la vérité que le professeur se permet à de rares endroits de retoucher les traductions classiques, afin par exemple que la vérité de la pénitence ne devienne pas, par exemple, une simple sincérité, comme elle était traduite chez Aimer Le Jay. Ce que le commentaire de Foucault retient ainsi des extraits choisis, ce qui va scander sa progression, n'est donc pas concerné par les débats érudits portant sur l'ajout ou la suppression d'un adverbe, d'une locution, d'une exclamation. Foucault se révèle d'abord un lecteur de mots avant d'être un lecteur de phrases. Il découpe les premiers plutôt que de se laisser porter par les secondes. Ensuite, deuxième point, Foucault conserve dans la forme finale de son enseignement les différentes strates de sa recherche. Cette stratification est une manière singulière d'avancer dans l'intelligence des textes. Celle-ci renvoie bien évidemment à des époques et des lieux de lecture différents, souvent guidés par les circonstances. On se rappelle en particulier que pour la préparation du cours de 1980, Foucault a changé de bibliothèque. Il est passé de la Bibliothèque nationale au Solchoir. En fait, il avait croisé le père Albaric, sous la voûte de la Bibliothèque nationale à l'automne 1979, alors qu'il venait de perdre une journée de travail suite à l'indisponibilité des livres dont il avait besoin. Et le père Albaric lui dit « C'est bien fait pour vous, vous n'aviez qu'à aller au Solchoir ». Et Foucault accepta la leçon et s'inscrivit le 5 novembre 1979 à la Bibliothèque du Solchoir où il travailla jusqu'en 1984. Donc effectivement, disponibilité de volumes qui peut expliquer, bien entendu, le fait de passer d'une édition à l'autre. Mais si ces strates de lecture obéissent à des contraintes de lieu, sans doute à des conditions de disponibilité de volume, plus qu'à des choix délibérés, il est intéressant de noter qu'elles demeurent apparentes dans l'enseignement final. Tout se passe comme si chaque temps de lecture et de prise de notes était déjà un palier dont tout travail ultérieur devait repartir, quitte à le dépasser, mais sans l'annuler complètement. Le travail préparatoire du cours collige ainsi dans un même manuscrit les lectures les plus récentes et les lectures les plus anciennes. L'option inverse consisterait à redescendre chaque fois des notes circonstancielles vers le texte premier ou son édition la mieux établie, comme vers un point idéal de la recherche qui permettrait de discriminer les étapes intermédiaires et juger en termes de vrai-faux les moindres assertions. Or, telle n'est pas la méthode de travail de Foucault, au moins quand il prépare le cours du gouvernement des vivants. Et je crois que c'est peut-être ici que se joue la différence entre une lecture des textes conçue par le philosophe comme une expérience de pensée et une lecture qui vise uniquement le commentaire érudit. Loin de se concentrer sur l'état originel du texte, qui validerait d'abord une connaissance littéraire des pères, Foucault se donne un autre but, qui pourrait être éclairé par un entretien autobiographique de 1978. La recherche historique doit garder la trace du choc qui se produit entre les textes du passé et le présent du lecteur, dans une expérience de lecture qui se déploie dans un temps singulier. Je vous cite Foucault en 78. Mais mon problème n'est pas de satisfaire les historiens professionnels. Mon problème est de faire moi-même et d'inviter les autres à faire avec moi, à travers un contenu historique déterminé, une expérience de ce que nous sommes, de ce qui est non seulement notre passé, mais aussi notre présent, une expérience de notre modernité telle que nous en sortions transformés. Fin de citation. Or, cette expérience, je crois qu'elle renvoie également à des moments discrets de lecture et donc de prise de notes, non à une propriété intrinsèque du texte que l'analyse suffirait à dégager. Dans cette perspective, il est normal que différentes raies de lecture puissent continuer à scintiller tout au long du processus, permettant de dégager une pensée du passé. Peut-être parce que Foucault, en 80, ne propose pas d'abord un enseignement sur les pères, il propose aussi ou également un enseignement sur son expérience de la lecture des pères. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour ces deux exposés. Tu prends le micro. Donc, oui, j'en profite pour faire suite à ce que disait Philippe. Je trouve que c'est très frappant la manière dont, quand on veut rendre compte un peu de la pensée de Foucault, au fond, c'est vrai que pour les années 60 jusqu'au milieu des années 70, on peut vraiment former des espèces de slogans du style... je ne sais pas, la prison produit de la délinquance, ou alors les sciences humaines sont le régime de véridiction de la discipline. Alors qu'à partir des années 80, on va être plutôt sur la parésia, le souci de soi, la publicatio sui ou l'aveu, c'est-à-dire vraiment sur sur des concepts. Hein, c'est-à-dire que, j'allais dire, même pour le professeur, pour celui qui expose la pensée de Foucault, ce nouveau régime, vraiment, et se laisse vraiment, vraiment sentir. Bon, alors, est-ce que pendant que je ménageais une transition, vous avez pu penser à des questions pour nos deux intervenants? Des félicitations. Oui, vas-y.
Ouais. Non, j'ai été très intéressé par cette idée. Je crois que, c'est avant tout un lecteur de mots. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est effectivement définir des termes qui ont une résonance et qui ont un effet. Et je crois que c'est effectivement à la fois pas de la philologie ce qu'il fait, mais le vrai sens de la philologie, dans le sens où, au fond, quand Lorenzo Val a fait son truc sur la notion de consentin, c'est bien comme ça qu'il coince. C'est-à-dire qu'il trouve les mots où on peut dire non, ces mots-là n'ont pas pu être écrits au moment de Constantin, ils ont été écrits par des scribes de la Curie. C'est-à-dire qu'il retrouve le vrai sens de la philologie, le sens politique de la philologie, voilà, il me semble. Et je crois que tu l'as vraiment mis en évidence là dans ton intervention. Ouais. C'est plus des félicitations qu'une question.
Je vais poser une petite question à chacun de nos intervenants. Tu parlais de la posture, quand tu parlais des comptes rendus à un moment du jeune homme intimidé qui fait une préface pour quelqu'un. Ce qui est quand même frappant, je trouve, chez Foucault, c'est que très tôt, on ne sent aucune intimidation. C'est-à-dire, il y a quand même, je trouve, une posture. J'allais dire, il y a presque plus d'humilité dans les comptes rendus des années 70, c'est-à-dire au moment où il a gagné sa posture et où pourrait faire preuve avec beaucoup de justification d'une certaine arrogance. Et au contraire, là, on a un régime, j'allais dire, très qui est plein de reconnaissance par rapport à des auteurs qui sont sans commune mesure souvent avec lui. Et je trouve qu'au niveau des années 60, il peut parler de Coiré, enfin vraiment de référence. Hein. Et même par exemple, sur Hölderlin, sur le bouquin de La Planche, il n'y a pas un mot sur à peu près le contenu du bouquin sur Hölderlin. C'est-à-dire je trouve que c'est très frappant. Donc ça, ce serait la première chose. Et pour Philippe, oui, cette manière de se concentrer sur les mots, est-ce que ce n'est pas porté aussi par toute une école de lecture des Grecs? Alors, je pense même pas... Enfin, par exemple, Vernon, et puis en deçà aussi, celui qui a écrit le nom m'échappe, le vocabulaire de la pénalité grecque. Il y a un auteur, bon, ça m'échappe, qui faisait aussi de la psychologie sociale, qui faisait partie de... Oui, c'est ça, le maître de Vernon. Bon, voilà. Oui, voilà, Gernet, oui. Voilà qui, on connaît Anthropologie de la Grèce antique, mais son premier travail est... Il y a vraiment une approche, justement, une attention à la manière dont justement les termes dans leur littéralité apparaissent ou n'apparaissent pas. Et ça, c'est vrai que c'est très nouveau. Et tu montres, c'est un des intérêts vraiment de ta thèse, que ça se débloque vraiment au niveau des années 80. Et ensuite, ça ne fait que se renforcer, justement, au niveau des années 83-84, où il va chercher, il faut qu'il y ait Parésia dans le texte, il faut qu'il y ait Émile, Épiméléia et Otou, etc. C'est vraiment très...
Oui, je me contente de contresigner le constat que tu fais. Effectivement, les comptes rendus et préfaces des années 60 sont aussi tranquillement dans une réinterprétation des textes qui les tord ou qui les, en tout cas qui en redonne une lecture profondément différente de la lecture classique, que les comptes rendus des années 70 sont dans une position de respect, en tout cas de délicatesse vis-à-vis de la posture de l'intellectuel qui donne son label d'intellectuel. Il me semblait que les deux mouvements, ce qui était intéressant, c'était de rapprocher les deux mouvements, parce que finalement, il y a dans les deux cas une sorte de manière de se porter à hauteur du texte, en s'appuyant, en congédiant la question du vrai, d'une part, et en s'appuyant sur la constitution discursive, c'est-à-dire que l'examen de la constitution discursive des textes dans les années 60, c'est à vraiment à se porter à leur hauteur assez tranquillement et au fond à en défaire l'autorité parce qu'il ne s'agit jamais que de nappes de discours et de transformations dans le discours. Donc finalement, de ces transformations-là, le préfacier est également un témoin, au même titre que l'auteur. À l'inverse, dans les années 70, le rapport au discours va servir précisément et à défaire une certaine naïveté dans la position du témoin ou de l'authenticité. Je crois que ce n'est pas l'authenticité des témoignages qui intéresse Foucault. En tout cas, il essaie toujours de contourner ce motif-là, le motif de l'en bas, ce qu'il redit dans la vie des hommes infâmes quand il dit voilà bien, avec toujours cette incapacité à franchir la ligne, à aller voir en bas le vrai discours des vrais gens, etc. Et puis en même temps, de ne pas se poster en surplomb vis-à-vis des textes qu'il préface. Donc je suis parfaitement d'accord avec la description. Foucault n'est pas très intimidé par les textes qu'il commente. Je ne suis pas sûr que la timidité est son modus premier.
Oui, peut-être juste redire. Effectivement, je crois que ce qui est intéressant dans le travail que Foucault fait sur les textes patristiques, c'est justement de faire entendre dans ces textes-là et dans leur traduction les champs sémantiques de la vérité et du soi. Et quand on se reporte aux traductions de l'époque, Sources chrétiennes ou Émerlegeait, c'est quelque chose qui est complètement patiné. Donc vraiment le travail de découpe, de traduction et de retraduction se concentre, et peut-être que ça vient, alors voilà, ça serait très intéressant de voir d'où vient cette pratique. Elle vient peut-être d'avant 1980, il a peut-être appris ça auprès d'autres maîtres, faire attention aux occurrences des termes. Et alors du coup, la question de l'interprétation qu'il donne de ces textes peut se jouer là, parce que c'est intéressant de faire entendre la vérité et le soi. Parfois, on se demande, est-ce que c'est si important dans le texte de Tertullien, ce qu'il fait dire à telle occurrence du mot vérité ou mot soi, voilà. Mais c'est là où justement, du coup, la discussion peut s'engager et devient tout à fait intéressante.
Oui, une question à Mathieu. En fait, en t'écoutant, je pensais au texte sur et pour Fromanger. Qui est un autre élément de ton corpus, en fait, oui. Qui est tous les textes que Foucault a consacrés à des artistes contemporains et qui relèvent exactement, me semble-t-il, de la même logique. Alors, j'avais envie de te poser cette question, mais en même temps, par bande, à la poser, comme au billard, à Daniel. Étant donné le nombre de livres reçus par Foucault, est-ce que Daniel, vous voyez une j'imagine que Foucault refusait énormément de faire, refusait un certain nombre de comptes rendus. Il devait être sollicité très souvent par l'Obs, par un certain nombre de. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple dans les années 70, il publie, quand on regarde les 10 écrits, il publie énormément de tribunes dans l'Observateur. Hein. Et effectivement, ce support-là pour les livres, c'est très rare. Hein. Mathieu l'a pas, rapidement, parce que c'est les supports d'écriture sont à la fois des revues académiques d'abord, et puis après Libé, par exemple. Libé, un lieu où il publie quelques comptes rendus. Et donc, est-ce que c'était une stratégie délibérée, ou est-ce que, vous voyez la question, c'est-à-dire que C'est comme, enfin, comment dire, on a vraiment l'impression que qu'à un moment donné, il s'est dit, ça, je n'en fais pas.
Oui, c'était pour rebondir sur ce que tu as dit, Philippe. Je me demandais vraiment s'il y a une rupture, comme tu nous l'as présenté, aussi forte finalement du point de vue foucalien, parce que cette idée qu'on va chercher le sens finalement à partir des mots, alors ça peut avoir évidemment des racines philologiques, on le voit bien, et puis historique, avec toute une école dont on a parlé un petit peu, Gernet, Vernant, etc. Et en fait, d'autres, parce que Gernet était un des trois mousquetaires avec Bloch et Granet. Hein, c'était trois normaliens, ils ont fait trois choses très importantes dans leur champ, qui, à chaque fois, mettaient en question la question du langage. Bon, mais du point de vue de Foucault, tout simplement, est-ce que cette insistance sur le mot séparé de son contexte, c'est pas, on ne peut pas le lire tout simplement comme une continuité avec ce qu'il disait sur les énoncés dans l'archéologie du savoir, savoir que le sens d'un texte n'est pas référé à un foyer subjectif qui, voilà, dont il serait responsable, qui en serait le centre. On va plutôt essayer de le percevoir à travers des dispersions d'énoncés. Bon, finalement, ce qui fait ce que tu nous as décrit, ça reste, à mon sens, je l'entends comme ça, hein, très foucaldien et dans la lignée de ce qu'il avait déjà annoncé auparavant. Enfin, est-ce que je me trompe là ? Je ne sais pas.
Avec peut-être la petite différence que dans l'archéologie du savoir,
S'arrêter au lexique, par exemple, c'est l'état terminal du discours, qui n'est justement pas l'objet de l'archéologie. C'est-à-dire, avec l'archéologie, on est quand même en dessous ou au seuil de cet état terminal qui est la syntaxe et le lexique d'un texte. Et c'est assez frappant d'ailleurs parce que quand il travaille les textes chrétiens avant 80, donc vers 78, la question du lexique, au contraire, il étudie ces textes comme des pratiques discursives dans la suite de l'archéologie du savoir. Et du coup, esprit ou âme, voilà, peu importe le mot en tant que tel, c'est les stratégies qui sont à l'œuvre dans le texte qui sont pour lui premières. En 80, j'ai l'impression que cette idée des stratégies à l'œuvre est un peu décalée, et c'est vraiment le texte dans son lexique et sa syntaxe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez frappant quand même, au moins dans la manière dont ces textes sont présentés en cours. Quand il commente les pères en 78, il n'y a aucune discussion sur les mots. Par contre, les stratégies à l'œuvre, oui, mais les mots en tant que tels, non. J'ai l'impression qu'il y a un basculement qui se fait quand même avec le cours de 80.
Très bien. Merci donc à nos deux intervenants. Merci à vous tous et à demain. 9h30. Merci.